rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Bienvenue au rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne, l'émission de partage des découvertes et des coups de cœur culturels. Aujourd'hui, plein de thèmes sont à l'honneur. L'amitié, la musique, la corruption, la boxe, le nazisme et les camps de la mort, l'édition, le couple et l'amour, toujours. Il y en a pour tous les goûts et humeurs. Nous commencerons avec Les Correspondants, l'œuvre épistolaire de Ben Mazoué et Grand Corps Malade. Yann nous donnera son avis éclairé et éclairant sur l'exposition du château de Compiègne consacrée à Prosper Mérimée. Nous présenterons ensuite des romans, Edge of Vice de Dipti Kapoor, Danser encore de Charles Aubert, Mon mari de Maud Ventura, le livre de la rentrée de Luc Chomara et Un instinct de liberté de l'auteure compiénoise Muriel Bélier. En fin d'émission, nous écouterons notre stagiaire Apolline, à qui nous souhaitons la bienvenue, qui souhaite nous expliquer pourquoi Hunger Games et son livre de chevet. Et c'est Aurore qui ouvre le bal aujourd'hui avec l'œuvre commune de deux excellents chanteurs-auteurs.
Et oui, merci Anne. Alors Les Correspondants, ce sont Grand Corps Malade, alias Fabien de son prénom, et Ben Mazoué, qui décide de s'envoyer une lettre par semaine pendant un an. Pourquoi faire ça? Eh bien déjà parce que ces deux auteurs, compositeurs, interprètes sont amis. Et ça, ça leur donnera une occasion de se donner régulièrement des nouvelles. Une lettre par semaine, quand on est amis, c'est pas mal. Alors bien sûr, il y a d'autres moyens de communication, mais là l'idée c'était aussi de se donner des nouvelles par lettre. Et c'est pas rien, parce que quand on écrit une lettre, il faut choisir ses mots, il faut trouver une enveloppe, il faut aller la mettre dans une boîte jaune. Bref, pour envoyer une lettre, bah, faut se motiver un peu quand même. En tout cas, ils en parlent aussi dans le livre. Et derrière une lettre, bah, du coup, comme il y a tellement de motivation, il y a aussi une vraie intention. Donc faire tout ça chaque semaine pour quelqu'un d'autre qu'un ami, ça peut devenir compliqué. Donc ils se sont bien trouvés, je pense, ces deux-là, pour faire cette expérience. Et puis au début, il faut dire qu'ils ne savaient même pas si leur initiative allait être publiée ou pas. Donc ils se sont lancés et puis se sont dit, bah, on verra bien. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que ces deux artistes, bah, ils parlent de tout. Bien sûr, ils parlent de leur histoire professionnelle et musicale, parce que ça prend une grande place dans leur vie, donc ça prend aussi une grande place dans leur correspondance. Et comme ce sont deux artistes qu'on adore, bah, on est content de les lire sur ces sujets-là. Ils parlent aussi de la pandémie, parce qu'elle est contemporaine de leur initiative et elle impacte fortement leur domaine non essentiel, comme le chante très bien Grand Corps Malade. Ils abordent aussi des thèmes personnels. Et là, on a l'impression d'être des petits voyeurs gentils et autorisés à rentrer dans leur bulle privée. Ça fait plaisir, ça croustille pour nous. Ils parlent de leurs enfants notamment. Ils racontent des anecdotes de leur passé, des moments forts pour eux. Et puis, ils partent aussi en digression parfois. Ils pinaillent sur du vocabulaire, ils réécrivent Shakespeare à leur sauce, ils inventent des chansons sur des thèmes improbables, et nous partagent aussi leurs réflexions sur des sujets du quotidien, ainsi que leur vision de la vie. Et ils le font avec le sourire, sans prise de tête, pour rigoler parfois, ou même en se moquant d'eux-mêmes. À les lire, on passe vraiment un excellent moment. Ils parlent aussi d'autres artistes. Notez que la préface est écrite par un de leurs potes, auteur, compositeur et interprète lui aussi, Gaël Faye. Mais saviez-vous que nos idoles ont aussi leurs propres idoles? Eh bien, pour Grand Corps Malade, par exemple, c'est Michael Jordan. Et il l'a même déjà rencontré. L'anecdote vaut le détour, mais je ne vous en dirai pas plus. Ben Mazoué, lui, s'est laissé impressionner par la simplicité et la bonne humeur de Kylian Mbappé, qu'il a rencontré par pur hasard, après un match. Pour Ben, dire Mbappé, c'est même devenu un nom de code pour lui et son équipe quand il est en tournée. Mais je ne vous dirai pas non plus pourquoi, il faudra aller chercher l'info dans leurs lettres. Ces deux artistes, bien que proches en termes de style musical, ont leur propre plume. Moi, je trouve qu'elle est assez reconnaissable, et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'on pourrait me lire l'une des lettres et que je pourrais deviner lequel des deux l'a écrite. Je lis, j'entends leur voix, elles se prononcent dans ma tête et je sens vraiment leur empreinte dans l'écriture de chaque lettre. Donc ça, c'est aussi intéressant de lire dans un autre genre de ce qu'on a l'habitude de leur part. Je terminerai juste en vous lisant un court extrait de l'une de ces missives. Je prends un peu d'élan. « on avait réussi à vivre sans. On s'était attaché à d'autres disciplines. On croyait que ça allait bien. Et puis, il a suffi qu'elle revienne dans nos vies pour tout remettre une nouvelle fois en question. Nous n'avions jamais voulu la quitter. La scène. Mais il fallait comprendre. Il y avait eu le confinement. Il avait fallu s'occuper. Nous ne pouvions pas seulement nous asseoir et l'attendre sagement. Note que la scène, c'est pas une jalouse. Et si tu veux écrire un livre en même temps que la tournée, elle te dira jamais « C'est le bouquin ou moi, mais il faut choisir, là. » Mais la voilà de retour, la scène. Et comme ça fait un mois qu'on s'est pas écrit, on peut en déduire qu'on lui a fait la place qu'elle mérite dans nos vies respectives. Allez, je vous laisse deviner lequel des deux, Grand Corps Malade ou Ben Mazué, a écrit ce passage. Et je vous laisse là-dessus.
Grand Corps Malade, non ?
Ben Mazué.
Ah,
je comptais pas donner la réponse, en fait.
D'accord. Faudra le lire. Alors,
Yann,
tu es allé au château ?
Eh oui, ça y est. Les vacances sont là. Qui dit vacances dit sortie, qui dit sortie dit expo, oui je rêve un peu, mais avant juste une petite dictée, non je plaisante. C'est juste une grosse ficelle pour introduire une critique sur l'expo Mérimée qui se tient depuis le 15 décembre et qui finira le 18 mars au château de Compiègne. Oups, le palais impérial de Compiègne, sinon on va s'offusquer de ne pas respecter les titres. Bref. Une expo, c'est toujours bien. Par définition, ce qu'on attend d'une exposition, c'est de montrer. Exporare en latin signifie à exposer, donc à montrer pour en ressortir avec un savoir supplémentaire sur un artiste, une œuvre, une personne, un fait, une notion. Et ce, grâce à un aspect ludique. On regarde, on découvre, voire on expérimente. Alors, quand j'ai su que Compiègne organisait une expo sur Prosper Mérimée, j'ai dit hop là, boum, c'est l'expo qu'il me faut. Pour plusieurs raisons. La principale est que Mérimée n'est pas si connue que cela du grand public, à part pour Carmen, la Vénus d'Île et sa dictée. Cependant, il a joué un grand rôle dans le poste d'archéologue protecteur du patrimoine français. Il fut aussi sénateur, académicien et personnage de cour du Second Empire. La deuxième est en tant que prof, chacun ses vices, je suis avide de faire vivre des expériences culturelles à des élèves pas toujours intéressés. Et là... Alors, l'expo comprend des salles entièrement consacrées à l'expo, ou dans lesquelles il ne reste pas grand-chose d'autre. Mais pas toutes. Ainsi, le visiteur va devoir faire toute la visite traditionnelle du château. Certaines salles pour quelques vitrines noyées dans une salle occupée par les expositions habituelles. Là, deux options s'offrent. L'option du visiteur qui n'est jamais venu. Il aura tendance à être déconcentré, à juste titre, par le reste. À raison d'ailleurs. La seconde option est que le visiteur connaît la visite traditionnelle. Là, ça va l'énerver de devoir passer par ces salles archi-connues et parfois vides de l'expo Mérimée. Le bas commence à blesser. Ensuite, certaines pièces sont très intéressantes et les textes les accompagnant sont pertinents. Mais que de petits caractères. Et combien faut-il se baisser pour admirer lesdites pièces et lire lesdits textes ? Même avide de culture, je suis un vrai goinfre, c'est lassant. Qu'en penseraient des jeunes peu intéressés à la base ? Ils décrocheraient. Sans parler que si vous y allez en fin d'après-midi, ainsi que je le fis, vous finirez le visionnage de certaines pièces et la lecture de certains textes à la lampe de votre téléphone portable. Suggérerions-nous l'installation de rétroéclairage ? Enfin, au niveau de ce qu'on apprend, les premières salles sur son enfance, son travail d'archéologue, sont pertinentes. Mais encore, si on n'y connaît rien et si l'on ne connaît pas l'absence de protection du patrimoine architectural et artistique français au XIXe siècle, pas évident de s'y retrouver. Idem pour la partie sur Mérimée à la cour. On ressent le fait qu'à Compiègne, tout le monde semble au fait de la cour sous Napoléon le Petit, comme aimait l'appeler notre cher Victor Hugo. Pour le novice, comme moi, sur tout ce qui est cours du Second Empire, direct en plein bal. Du coup, on est rapidement tenté de passer à autre chose. Comme ils ont passé rapidement Mérimée et la littérature. C'est-à-dire, on vous parle un peu de Carmen, surtout des costumes des premières mises en scène. On vous parle un peu de la Vénus d'Île et hop, là, c'est fini. Une salle, alors on a des petits carnets, illisibles, c'est normal. On a des textes, mais je veux découvrir Mérimée, je ne sais pas qui c'est. j'en apprends pas bézef. En conclusion, cette exposition est une fausse bonne nouvelle pour le novice, celui qui ne connaît que le strict minimum sur Mérimée et la période. Par contre, vu les pièces présentées, l'amateur de la période, celui qui est intéressé par la préservation du patrimoine, là oui, on peut y trouver son bonheur. Sinon, c'est une expo que l'on peut éviter. Une des nombreuses qui oublie bien souvent qu'en matière d'exposition, il faut savoir faire preuve de pédagogie.
Merci Yann, donc à voir ou pas. Alors, changement d'ambiance, on va aller en Inde maintenant avec le roman d'une jeune auteure indienne, Dipti Kapoor, Age of Vice. Le roman commence sur les chapeaux de roue par un accident de voiture qui va bousculer le destin de trois personnages. Deux hommes et une femme de milieux très différents, réunis depuis peu au cœur de Delhi. Ajay est issu d'une famille pauvre de l'Uttar Pradesh. À la mort de son père, il a été vendu à un recruteur local, puis envoyé dans les montagnes comme boy dans une ferme. Au décès de son propriétaire, il se retrouve à la rue à 16 ans. Mais Ajay est débrouillard. Il survit en ayant compris qu'il faut en permanence être aimable et docile. Il trouve un travail dans un café de routard. L'hiver, il suit ses collègues serveurs à Goa. Et là, il rencontre Sunny Wadja, fils d'un riche entrepreneur véreux à la jeunesse dorée, vivant dangereusement à faire la fête et se droguer. Ajay est fasciné par cet homme charismatique qu'il sert avec empressement. Sunny lui propose venir travailler pour lui à Delhi. Ajay deviendra son homme à tout faire, successivement garde du corps et chauffeur. Il va s'émanciper à l'ombre de Sunny, lui vouant à la fois une fidélité absolue et une dévotion de caste. Notre troisième personnage principal est Neda, une jeune journaliste d'investigation qui mène l'enquête sur une sombre affaire de corruption politique et morale. Lors d'une enquête de terrain où elle dénonce les projets d'urbanisme qui détruisent les bidonvilles dans cette ville de Delhi à l'urbanisation sauvage et gigantesque, où la modernité côtoie la plus grande misère, elle rencontre Sunny, cet héritier dont la famille est directement associée aux politiciens qui exproprient les pauvres. Ce roman explore les questionnements de trois personnages embarqués malgré eux dans des contradictions. Ajay, bon et honnête, se retrouve au service d'un redoutable clan mafieux. Neda, journaliste intègre, tombe amoureuse du fils de celui qui exploite ceux qu'elle défend et se laisse entraîner dans son style de vie extravagant. Et se nie aussi entre haine et respect pour son père. Chacun doit faire des compromis pour survivre, avec sa moralité pour le plus aisé et avec sa dignité pour le démuni. Dipti Kapoor dresse de beaux portraits, tout en portant un regard captivant sur la société indienne en pleine évolution. La jeune génération, éduquée en Occident, rêve de modernité. Mais le pouvoir reste largement aux mains des politiciens véreux qui ont bâti leur empire sur la corruption. Le clan Wadja contrôle les commerces de spiritueux, les transports, la police et la justice. Ils n'hésitent pas à tuer pour assurer leurs profits. En ville, à la campagne et dans les prisons, tout est affaire de classe. Les plus puissants ont droit de vie et de mort sur les plus faibles. Et Delhi est décrite comme une mégalopole des extrêmes, cité du vice et du plaisir. Age of Vice est donc un thriller brutal où tout est démesuré, sombre, enfiévré et sensuel. Dans cette trame à plusieurs voix, Dipti Kapoor cherche à nous maintenir en tension permanente par le biais d'une écriture saisissante et un rythme effervescent. C'est puissant et brillant, une lecture fascinante et une histoire qui est loin d'avoir dévoilé tous ses secrets puisque ce livre est le premier tome d'une trilogie. Et nous allons rester en rythme avec de la musique, le titre « Dump You », extrait du 7e et dernier album « Swing Resistance » du groupe « Lire le temps ». Depuis ses débuts en 2009, le groupe strasbourgeois nous embarque dans un cocktail explosif qui mêle swing, électro, hip-hop, influencé par le jazz, un savoureux mélange très énergique qui prend davantage encore vie sur scène, comme a pu le constater Aurore qui en a été charmée.
Oui, absolument. En fait, ça fait un moment que j'avais envie d'acheter leur album pour la bibliothèque et je ne le trouvais pas sur notre plateforme. Donc, et là, je regardais à chaque fois que je faisais une nouvelle commande pour le trouver. Là, je l'ai trouvé, je suis super contente parce que ce groupe sur scène, il était formidable. J'ai découvert au Picard Festival du côté de Villers-Cotterêts. Et voilà, c'était plein d'énergie, une bonne vibe, bonne humeur. Et puis, ça swing dur. Hein. C'est cool.
Écoutons. I don't really like the way you're looking at me right now. I ain't gonna stop. No. I just wanted to be nice. It's frozen, it's cold outside. What can you be for once? The one I like. Trying out the way sometimes. It happens you can be somehow.
Rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Maintenant, je vais vous recommander une biographie. Danser encore. Charles Aubert quitte le polar pour s'intéresser au destin de Johann Trollmann, appelé Rukeli, un jeune tzigane allemand, boxeur, qui a brigué le titre de champion national en poids moyen en 1933. Il boxait tel un danseur. C'est pour ça le titre « Danser encore ». Avec une grâce sans pareille et une exceptionnelle agilité. C'est son élégance même qui a fait son ascension et sa chute. Il avait une façon de se mouvoir si naturelle et un jeu de jambes si particulier qu'il donnait l'impression de danser autour de ses adversaires. Et grâce à une détermination sans faille et maintes efforts consentis, il a gagné beaucoup de combats ainsi que le cœur de celle qui fut sa femme. La rencontre avec son agent l'a hissé au niveau professionnel. Il a battu les meilleurs, appris de ses défaites, s'est endurci, tout en conservant son style spectaculaire et unique. Le titre était à sa portée, tout comme une qualification pour les Jeux Olympiques. Mais malgré ses victoires, l'un et l'autre lui ont été refusés. Quand bien même il gagnait sur le ring et était acclamé par le public, on l'a déchu de son titre et remplacé pour les Jeux. Pour quel motif ? Alors, il a perdu la considération des autorités de son sport parce qu'il ne boxait pas à l'allemande. Son style imprévisible est désormais discrédité. Et de nouvelles règles entrent en vigueur, la boxe devient un sport officiel en se conformant aux diktats du Troisième Reich. Le style allemand devait alors signaler la puissance et la robustesse de deux combattants qui se tapent dessus à tour de rôle mais sans bouger. Et surtout, il n'est pas à rien. Bien qu'ancré en Allemagne depuis plusieurs générations, la famille de Rukeli est tzigane, cheveux noirs, teint sombre, des sous-hommes pour le Troisième Reich, qui décidera bien rapidement de leur élimination, au même titre que les juifs, les homosexuels, les malades mentaux. L'époque est ainsi à la folle idéologie, il se fera stériliser de force par le parti nazi, il va petit à petit tout perdre, son peuple être chassé jusque dans les bois, sa famille, sa vie même, dans un camp de concentration en 1943. Danser encore est le portrait d'un grand sportif, au destin incroyable, plein de courage et d'humilité, qui n'a pas voulu fuir son pays et a tenu tête au régime, en quête d'identité et en lutte pour se faire accepter quoi qu'il en coûte. Il aimait, je cite, « la boxe et sa famille, le ciel et les étoiles » et voulait montrer au monde entier qu'on pouvait s'élever et rester digne devant l'ignominie la plus totale. Son rêve était d'être libre, comme le vent. Tout autant hommage à la boxe qu'un plaidoyer contre la haine, Danser encore est un court mais grand roman qui ne dit que le réel mais parvient à bouleverser. L'écriture est douce, limpide et vive, concise et sensible à la fois, et la narration est découpée en 10 rounds dont on sort sonné. Yann maintenant va nous parler d'un livre que j'ai beaucoup beaucoup aimé, Mon mari de Maud Ventura.
Oui, et c'est une bonne liaison, hein, parce que le mariage est un peu comme un match de boxe. On en sort assez sonné. Donc pour mes 39 ans, ou pour un Noël, je ne sais plus, un de mes meilleurs amis, un de ceux qui se comptent sur les doigts de la main de Django Reinhardt, ainsi que le disait le procureur des proches, m'a offert un livre. En effet, c'est vachement risqué quand même d'offrir un livre à un prof de français, et qui pisait, adore lire et barboter dans l'encre des mots. Je m'arrête là parce que je sèche. L'encre sèche. Bon. Eh bien, devinez quoi ? Vous devinez bien, il m'a offert Mon mari. J'étais enchanté de le rencontrer d'ailleurs. Je m'égare et pas seulement de Montparnasse. Je parle du premier roman de Maud Ventura qui commence à dater un peu. Mais j'aime bien parler des livres a posteriori. Je préfère généralement les digérer, y repenser, les laisser décanter, savourer le millefeuille qu'ils commencent à constituer ou pas. Ainsi, les romans de Marc Lévy sont tant digérables qu'ils ne laissent aucune trace, à part une vague flatulence intellectuelle qui rappelle le manque d'odorat d'un Covid-2. Ce roman, donc, au départ, m'a quelque peu fait décrocher la mâchoire. Non pas qu'il est mal écrit, le style est citronné avec un arrière-goût de vitriol, le tout enlevé par un lys qui se mute en hélébore fétide ou en arôme tacheté. Fleur qui attire les mouches par l'odeur de cadavres et d'excréments qui s'en dégagent. Les phrases sont efficaces, le rythme enlevé. Mais elle m'emmerde. La personnage principale m'emmerde. Peut-être parce qu'elle me ressemble, en ce sens qu'elle cherche une symbolique à tout et surtout à n'importe quoi.
T'es pas aussi névrosé qu'elle quand même.
Je sais pas, je vais demander à mon psy, mais hier j'ai joué au golf avec une balle verte. Elle guette, se prend la tête, et patati, et patata, et pourquoi tu me considères comme une clémentine alors que l'autre c'est une ananas, et pourquoi t'as mis tes clés dans ta poche de veste et non pas dans ta poche de manteau, et puis en sortant les poubelles, la porte elle s'est pas fermée correctement, et puis du coup ça montre que tu m'aimes moins, et wow, lâche prise mes mères, vis un peu, il t'aime, ça se voit, il te le dit simplement, il ne le dit ni ne le montre, comme et quand tu veux. Bref, un amour décrypté par une vraie psychorigidité œstrogénienne. Puis, le livre refermé, envoyé sur les rayons du repos poussiéreux de ma tendre et chère bibliothèque, il a maturé dans ma tête. Il refaisait irruption de temps à autre. Bien sûr, sa richesse se montrait à moi en me grondant de ma première lecture bas de plafond bien testotéronée. Cela me permet de dire que oui, ce roman est une manne en montre à quel point les femmes peuvent être des emmerdeuses. Mais c'est aussi une manne qui exprime aussi tout le désarroi, la chape de béton sociétal qui les étouffe, les bride, les marie, les formate, les caricature, leur présente un reflet déformé diffamatoire, à partir duquel elles ne peuvent que souffrir. Oui, une femme, par le fait d'être femme, subit une charge mentale dès le départ. Cela ne devrait être. Un homme ne connaît pas cela. Un homme peut aimer ses enfants et s'en occuper. Mais rares sont ceux qui le vivent comme le vivent la plupart des femmes. Ça existe, j'en connais. Ainsi, Maud Ventura propose un livre drôle, profond, sans être chiant. C'est un livre que j'ai donc aimé sur le long terme, comme L'étranger d'un certain Albert Camus.
Merci Yann. Alors on va passer maintenant à un livre drôle aussi, le livre de la rentrée de Luc Chomara. De la Feuille est éditeur. Sa directrice commerciale le somme de trouver la pépite de la rentrée littéraire, le roman qui va faire fureur, rafler les prix et valoir consécration aux éditions Mirage pour lesquelles il travaille. Il se met alors en tête de la perle rare. Une relation professionnelle émérite lui vante le livre de son neveu, Nouveau Message, un roman écrit uniquement en SMS, avec plein de fautes comme dans les vrais SMS, précise son auteur. Bon, il préfère passer à autre chose, et il se penche ensuite sur l'œuvre qu'est en train d'écrire son ami Luc, qui justement l'invite à passer quelques jours chez lui dans sa maison en bord de mer. Cet auteur de polar à succès a la curieuse habitude de mettre en scène Delafeuille lui-même dans ses intrigues. Mais pour la première fois, il délaisse le genre policier afin de surprendre son lectorat et il se lance dans un portrait de femme. Mais pas de n'importe quelle femme, ce sera sa propre femme, Delphine, aussi sexy que parfaite épouse, femme d'intérieur qui sait tout faire à la perfection. Je ne sais pas si ça peut exister, mais... Celle-là même qui accueille aux petits oignons notre héros Delafeuille. À tel point parfaite qu'il va être séduit, même subjugué. Et petit à petit, les choses vont prendre une tournure très étrange, pour ne pas dire surréaliste, quand Delafeuille commence à lire les premières pages du manuscrit. Il est vite pris d'un sentiment de malaise. Luc ne fait pas de Delphine le modèle de femme qu'il attendait, et quant à lui-même, il se voit peu à peu devenir l'autre personnage au cœur du livre. Et d'ailleurs, ce Delafeuille, notre héros, se trouve être le personnage récurrent des romans de Luc Chomara, notre auteur. On l'a découvert dans L'Espion, qui venait du livre, et le dernier thriller norvégien. Il joue le rôle de détective dans les polars, sauf que dans le cas présent, il cherche un livre au lieu d'un assassin. Comprenons donc pour le livre de la rentrée, Delafeuille est le pantin de Luc, le personnage écrivain, qui porte d'ailleurs le prénom de l'auteur réel du livre que nous lisons. Chomara lui donne vie sur le papier, en même temps que son invité pense vivre sa véritable existence. Éditeur de fiction, comprenez ici qu'il n'existe pas, Delafeuille se retrouve être le héros du méta-roman de son hôte, sans pouvoir agir pour l'en empêcher. Un roman vraiment pas comme les autres, puisque le livre que nous lisons est aussi le livre que Luc écrit. On est ainsi dans un livre gigogne, une mise en abîme jubilatoire qui fait évoluer notre héros en même temps que le livre qui parle de lui. Et c'est délicieusement absurde. C'en est même vertigineux. Le procédé donne le tournis, mais sans créer la nausée. Et s'il crée forcément une distance avec nos personnages, on s'amuse beaucoup, on se délecte devant tant de manipulations maîtrisées et limpides. Sans oublier que ce livre de la rentrée offre en même temps une satire très bien vue du milieu littéraire dans sa version mercantile, ainsi qu'une pertinente réflexion sur le discours que l'on peut porter sur les femmes aujourd'hui, en particulier lorsqu'on est un homme. C'est plein de malice, drôle et réjouissant.
Une question au niveau psychologique, ce personnage...
De Delafeuille ou l'écrivain ?
Il est dur.
L'écrivain ? Oui.
Luc. Non, mais le personnage, l'autre. Est-ce que c'est un homme dur, Delafeuille ?
Oui, d'ailleurs, il en parle de ce... Non, il est malléable.
Malléable. Un vrai personnage idéal.
Quoi. Voilà. À toi, Aurore.
Eh bien, moi, je vais enchaîner avec un livre. Tout à l'heure, tu parlais de biographie. On est un peu toujours dans le même registre, avec Un instinct de liberté de Muriel Bellier. Muriel Bellier-Kant est avocate à Compiègne et autrice par ailleurs. Pour celles qui ne la connaîtraient pas encore, elle a commencé par écrire sur un sujet qui la concernait directement, puisque c'est l'affaire Angélique Dumetz, cette jeune compiénoise retrouvée morte dans la forêt en 1996. Affaire pour laquelle Muriel était donc l'avocate de la maman de la victime. Et Angélique, l'empreinte d'une vie, est sortie en 2018 et c'est le premier roman de l'avocate autrice. Elle a continué sur cette lancée de romans judiciaires jusqu'à son dernier ouvrage, sorti en janvier dernier, qui là change de registre, Un instinct de liberté. Il est question d'une histoire familiale, dans le sens généalogique du terme. Muriel revient sur les traces de ses grands-parents et traverse l'Europe avec eux. Alors, les grands-parents de Muriel, avant de se connaître, ont connu la Deuxième Guerre mondiale, et son oncle est même passé par le camp de Compiègne. Chacun de ses aïeuls va suivre un destin très différent de l'autre avant de se rencontrer. L'une des deux familles vit à Paris et passera en zone libre, ce qui n'empêchera pas de connaître la douleur de perdre deux de ses membres dans les camps de la mort. De l'autre côté, on vit en Pologne, où l'on va se faire arrêter, puis déporter en Sibérie en juin 40, avant de trouver refuge au Kazakhstan. L'autrice retrace avec justesse des destins forts, de gens qu'elle a connus, qu'elle a aimés, de personnes qui l'ont marquée et dont elle a parfois suivi les traces sans le savoir. C'est au fil de ses recherches qu'elle va découvrir de nombreuses similitudes entre elle et ses grands-parents. Alors, Muriel Bellier-Kant nous interroge aussi sur ce qui nous construit avant même notre naissance. Le passé de nos ascendants coule-t-il dans nos veines dès notre premier cri ? Quelle est la part du choix ou du poids transmis dans notre existence ? Si le sujet vous intéresse, sachez que Muriel Bellier-Kant sera en dédicace à la bibliothèque Saint-Corneille le mercredi 10 avril à 17h30. Elle viendra notamment parler donc de son dernier ouvrage lors d'une table ronde avec Aurélien Gnatt, le directeur du mémorial de l'internement et de la déportation de Compiègne. Et ce n'est pas tout, parce que cet événement sera animé par Graphite et donc retransmis en direct sur les ondes de votre radio locale préférée. Vous n'avez donc aucune excuse pour le mercredi 10 avril 17h30, soit votre présence à l'émission est requise puisque ça sera une émission publique, soit à distance derrière votre poste. Voilà. Et vous en saurez encore plus sur ce roman du coup mi-biographique et mi-introspectif. Alors, on va laisser la place à Apolline, qui est notre stagiaire de troisième de cette semaine, qui a envie de nous donner une petite chronique sur son coup de cœur. Je la laisserai le présenter. Apolline, elle a justement lu il n'y a pas très longtemps Inheritance Game, que j'ai présenté à la dernière émission Rendez-vous Culture des Bibliothèques. Et d'une manière générale, j'ai l'impression que tu lis quand même pas mal de romans young adult et de fantasy aussi.
Oui, c'est ça.
Alors, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui ?
Je vous présente Hunger Games, qui est un livre qui a été écrit par Susan Collins. Hunger Games, ça raconte l'histoire d'un futur apocalyptique dans lequel la population est partagée entre différents districts sur lesquels règne le Capitole. Tous les ans, celui-ci tire au sort des enfants des districts et les envoie dans une arène pour tâcher d'y survivre sous la forme d'une émission de télé-réalité. Le dernier en vie sera nommé vainqueur, il deviendra riche et célèbre. Quand sa petite sœur est désignée pour participer aux Hunger Games, Katniss n'hésite pas une seconde et prend sa place. Dorénavant concurrente, elle part pour un combat à mort vers l'arène. Elle sera accompagnée de Peeta, c'est un garçon de son district, pour survivre au jeu, et elle devra se faire des alliés et combattre ses ennemis, prêts à tout pour tuer et gagner les jeux. Hunger Games, c'est un livre qui est écrit de façon très simple, mais incroyable, et que j'ai adoré, parce qu'à chaque fois je suis plongée dans la lecture et j'arrive pas à en sortir et je découvre des nouvelles choses à chaque fois. L'histoire est géniale car ce n'est pas seulement un récit de survie face au jeu, c'est plus original et moins ennuyeux. Il y a aussi de l'action et des rebondissements qui tournent aussi autour de l'amitié, de l'amour, et la nature et les intrigues autour de la reine, mais aussi des intrigues politiques, parce qu'avec le Capitole. J'ai lu ce livre au moins 5 fois, et à chaque lecture, c'est un plaisir de redécouvrir cet univers.
Et du coup, je te demande pas si t'as préféré le livre ou le film.
Oui, le livre plutôt. Je trouve que le film est pas trop à la hauteur du livre. J'ai vraiment préféré le film.
Le livre.
Le film, pardon. Le livre. Désolée.
Bah, 5 fois, ouais, j'avoue.
Ouais. En fait, à chaque fois, j'ai l'impression que je le redécouvre. C'est un des seuls livres. Je me lasse pas de le relire, en fait, à chaque fois. Genre là, quand j'ai dû faire ma chronique, j'ai juste voulu feuilleter pour me remémorer un peu, mais en fait, j'ai pas pu m'arrêter. J'ai lu 5 chapitres.
Voilà. Et tous les tomes ou que le premier?
Oui.
Tome.
Que les tomes.
Tous les tomes.
D'accord.
Ah, t'as relu 5 fois les 3, 4 ?
Il y en a 3, je crois. Ah. Ouais, c'est ça. Voilà.
Waouh. Donc, à ceux qui n'ont pas vu, qui ont vu le film et qui n'auraient pas lu le livre, ben voilà, lisez le livre, c'est carrément mieux.
Et on s'en lasse pas.
Voilà.
Merci beaucoup, Apolline.
De rien.
Eh ben, on arrive au terme de cette émission. Pour les prochains événements de la bibliothèque, donc le samedi 2 mars à 17h, les petits socratiques, le café philo, les passions sont-elles un obstacle à notre liberté ? C'est une discussion et un débat philosophique animé par Robert Verger. Le vendredi 8 mars à 14h30, la bibliothèque Mourichon vous propose un atelier techno-découverte pour des créations électro-numériques étonnantes. C'est un atelier gratuit sur inscription. Et à partir du 8 mars commence la deuxième édition du Festival de la langue française Parole. Avec plein de rencontres littéraires, de la poésie, de la musique et de l'humour, vous retrouverez tout programme sur notre site internet. Le vendredi 22 mars à 20h15, Cinéclep avec le film Outrage de Brian De Palma. Notre prochain rendez-vous culture à la bibliothèque est le samedi 23 mars à 11h. Venez nombreux. Et notre prochaine émission sur notre radio préférée Graphite, le vendredi 29 mars à 18h. À très bientôt. Bon week-end et bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'être en vacances.